Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 12, nous arrivons à cette dernière section après quelques mois de coupure. Dernière section dans cette lettre, nous allons ce matin regarder les deux premiers versets du chapitre 12. Ils sont en fait une charnière entre les 11 premiers chapitres et puis la fin de la lettre aux Romains. Mais lisons donc les versets 1 et 2 de ce chapitre 12 de la lettre de Paul aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et jusque-là, la parole de Dieu. Dans notre étude de cette lettre, on a vu différentes divisions, différentes sous-divisions. Mais cette division entre les 11 premiers chapitres et les chapitres 12 et suivants ressemble beaucoup à la division que l'on a au chapitre 1 entre le verset 15 et le verset 16. Si vous ne vous rappelez pas, dans les 15 premiers versets du chapitre 1, on a l'introduction, on a les salutations de Paul. Et puis à partir du verset 16, Paul va commencer à développer cette partie doctrinale. Il commence « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance, c'est la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et il va développer cette partie doctrinale jusqu'à la fin du chapitre 11. Et on a vu que c'est un chef-d'œuvre. Paul nous a amené à des sommets où, avec l'apôtre Paul, on n'a pu que louer Dieu pour sa grâce envers nous en Jésus-Christ, pour son amour envers nous en Jésus-Christ, pour la perfection de son plan, pour la perfection de l'œuvre qu'il a accomplie en Christ. Et maintenant, à partir de ce chapitre 12 jusqu'à la fin, Paul aborde la question par la partie pratique, l'application de ce message. Mais la pratique ne peut pas être dissociée de la doctrine. Les deux vont ensemble, et les deux vont ensemble dans un certain ordre. On ne peut pas vivre la vie chrétienne si on n'est pas ancré dans la vérité. Et Paul se tourne donc vers nous. Il nous dit, mes frères, mes chers frères, on a déjà dit que quand Paul utilise cette expression, et dans cette lettre il l'utilise à 14 reprises, il est rempli d'émotions. Paul se met au même niveau que ses lecteurs. Paul n'est pas un pape. Non, c'est un frère en Christ. Il a part à la même grâce que ceux à qui il écrit. Bien sûr, Paul a été équipé, Paul a été choisi comme apôtre, il a été équipé pour exercer son ministère. Mais Paul n'est pas un chrétien de première classe qui écrit à des chrétiens de deuxième classe. Non, c'est un frère en Christ qui écrit avec son autorité d'apôtre de la part de Dieu à d'autres membres de la famille de Dieu, qui hérite des mêmes bénédictions que lui. C'est comme si Paul venait nous entourer de ses bras et nous dire, mes chers frères, de nous entourer avec ses bras et remplis d'amour. Et il continue par les compassions de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tout ce qu'il a dit dans les 11 premiers chapitres. Il a parlé de la bonté de Dieu, de la patience de Dieu, de l'amour de Dieu, de sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Paul pense peut-être à cette merveilleuse doctrine de la justification par la foi, une justification basée uniquement sur le sacrifice de substitution du Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquez ce petit mot, cette petite conjonction, donc, je vous exhorte donc, et c'est très important parce que Paul est en train de dire par ce petit mot, gardez en mémoire tout ce qu'on a dit dans les 11 premiers chapitres. Gardez en tête cela, gardez dans votre cœur ce que nous avons vu dans les 11 premiers chapitres et voyez les implications se manifester dans votre vie. S'il y a un seul livre dans le Nouveau Testament qui nous enseigne la grammaire de l'Évangile, c'est bien la lettre de Paul aux Romains. Apprendre à articuler la grammaire de l'Évangile est quelque chose de fondamental pour vivre notre vie chrétienne. Et cette grammaire est simple, c'est que les impératifs de l'Évangile sont toujours enracinés dans les indicatifs de la grâce de Dieu pour le salut. On a eu 11 premiers chapitres. 11 premiers chapitres remplis d'indicatifs qui nous déclarent l'amour de Dieu, qui nous déclarent ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Dans les 11 premiers chapitres, il n'y a eu que très peu de passages où Paul s'est arrêté pour nous dire ce que nous devions faire. En fait, sauf erreur de ma part, il n'y a que 3 passages dans les 11 premiers chapitres où Paul s'est arrêté dans son raisonnement pour nous dire ce que nous devions faire. Dans notre série, on a couvert ces 11 premiers chapitres en 61 messages. En 3 endroits, en 61 messages, où Paul nous a dit, voilà ce que vous devez faire, c'est un impératif tous les 20 messages. Et voilà l'équilibre. C'est de cette manière qu'il faut vivre la vie chrétienne. Robert Murray McShane, un pasteur écossais du 19e siècle, écrit ceci, « Pour chaque regard que tu portes à toi-même et à ce que tu devrais être, porte-en 100 au Seigneur Jésus-Christ et à tout ce qu'il a fait pour toi. » Pour un regard à nous et à ce que nous devrions être, porte-en 100 au Seigneur Jésus-Christ et à tout ce qu'il a fait pour toi. On va le dire différemment, en utilisant une illustration. Au collège, je ne sais pas si c'est le cas pour chacun d'entre vous, je sais qu'il y en a une qui n'a pas eu cette expérience, peut-être d'autres, mais on avait une initiation au latin. Certains s'en rappellent, d'autres, ça ne les a pas beaucoup marqués. Mais une des premières choses, quand on devait apprendre à construire une phrase, et c'est sans doute vrai aussi pour d'autres langues, c'est que les verbes se mettent à un endroit bizarre, surtout pour nous, Français. Il fallait réajuster sa manière de réfléchir. Et le professeur nous disait, non, le verbe est à la fin. Le verbe est à la fin, mais on ne parle pas français de cette manière. Si je vous disais ce matin, au culte à Saint-Rémy, je suis venu, vous allez me regarder avec des yeux bizarres. Et la construction de la phrase n'est pas de cette façon-là. Non, en français, on aime mettre le verbe devant. On met l'action devant. Le problème, c'est que malheureusement, nous aimons faire la même chose avec la vie chrétienne, avec notre conception de la vie chrétienne, de mettre l'action au début. Seigneur, donne-moi des choses à faire. Mais on ne peut pas parler de l'Évangile de manière claire, on ne peut pas vivre l'Évangile de manière claire si on inverse l'ordre grammatical dans lequel l'Évangile nous est donné. Et l'ordre est le suivant, c'est d'abord de s'immerger dans la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. C'est de boire cette grâce en grande quantité, c'est de découvrir, pour reprendre un titre, les 1000 facettes de cette grâce en Jésus-Christ, et ensuite de recevoir et de suivre les impératifs de l'Évangile. À part les 3 occasions dans les 11 premiers chapitres où l'apôtre Paul s'est arrêté pour nous dire ce que nous devions faire, il a fallu la patience de lire les 11 premiers chapitres pour arriver à cette nouvelle section qui ouvre la porte des impératifs. Et si on n'est pas enraciné dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ, si on ne s'est pas immergé dans la grâce de Dieu, les impératifs qu'on va trouver dans le chapitre 12 jusqu'à la fin vont nous détruire. Parce qu'ils arrivent comme le feu d'une mitrailleuse sous la plume de l'apôtre Paul. C'est phrase après phrase après phrase. si on n'est pas enraciné dans ce que Dieu a fait pour nous en Christ, alors on est foutu. Et c'est une leçon primordiale que nous devons apprendre, l'ordre, la grammaire de l'Évangile. On renverse l'Évangile, on fait du mal à nos vies quand on inverse cet ordre, quand on cherche, quand on a focalisé sur notre faire, au lieu de se focaliser sur ce que Christ a fait, sur ce que Dieu a fait en Christ. Et quand Paul donc arrive à cette charnière dans sa lettre aux Romains, il fait en sorte que cela soit clair. Je vous exhorte donc, il nous renvoie aux 11 premiers chapitres. Frères, j'ai part aux mêmes bénédictions que vous, par les compassions de Dieu, en vous rappelant tout ce que nous avons vu dans les chapitres précédents. C'est sur cette base que je vous exhorte. Et quelle est donc notre réponse à la grâce et à l'amour de Dieu? Paul définit 4 caractéristiques essentielles de notre réponse. La première, c'est que notre réponse est une réponse sacrificielle. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Une chose intéressante ici à noter, c'est que dans toute la littérature qui se déverse dans le monde chrétien aujourd'hui pour nous dire comment mettre en œuvre notre vie chrétienne, comment mettre en ordre notre vie chrétienne, on trouve rarement le mot sacrifice. Alors que dans le Nouveau Testament, c'est le premier mot. La première parole de l'Évangile qui nous enseigne ce que nous devons faire, c'est « Prends ta croix. Prends ta croix et suis-moi. Prends ta croix. » Et Paul nous dit à ce christianisme du 21e siècle, rempli de confort, vous voulez quelque chose à faire, offrez un sacrifice. D'accord, Paul, mais qu'est-ce que je dois offrir? Un peu d'argent, un peu de montant? Qu'est-ce que je dois offrir? Paul dit tout. Tout. Paul ne nous appelle pas à faire des sacrifices. Il nous appelle à être des sacrifices. À être des sacrifices incarnés. Alors certains vont dire, mais stop, je pensais que Jésus avait mis fin au sacrifice. Dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez, il y avait plusieurs types de sacrifices. Il y avait le sacrifice pour demander à Dieu de pardonner, de couvrir les péchés. Et c'est le sacrifice qui a été parfaitement accompli par le Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice d'expiation, de propitiation. Paul ne pense pas à notre sacrifice dans ce sens. Il ne pense pas à, ne parle pas d'un sacrifice qui pourrait contribuer au pardon de nos péchés. Non, là, c'est le seul le sacrifice de Christ fait cela. Mais il y avait d'autres sacrifices dans l'Ancien Testament. Des sacrifices, en particulier l'action de grâce. Comme le sacrificateur versait de l'eau sur l'autel en signe de remerciement à Dieu. Nous sommes appelés à verser nos vies comme des sacrifices vivants. Étant donné que Christ s'est sacrifié pour nous, nous devrions en retour nous donner nous-mêmes, nous offrir nous-mêmes en sacrifice pour lui. C'est le langage de l'Évangile. Ce que Jésus veut, nous dit Paul, ce ne sont pas nos choses, on a beaucoup de choses. Non, ce n'est pas nos choses que nous sommes appelés à sacrifier. Il nous veut, nous. Nous. Que nous nous donnions comme un sacrifice vivant. Et le terme vivant souligne que ce sacrifice vient de cette vie nouvelle que Dieu nous donne en Christ. C'est cette vie nouvelle que nous offrons à Christ. Notre réponse est une réponse sacrificielle. La deuxième caractéristique que Paul donne, c'est que cette réponse est totale. Paul écrit de manière simple, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez-vous vous-même, offrez-vous comme un sacrifice dans votre totalité, y compris votre corps. Quand on vient au Seigneur Jésus-Christ dans la repentance et la foi, on ne le fait pas sur un plan mystique. On le fait en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, on vient devant lui avec un corps. Un chrétien sans corps, ça n'existe pas. Et le genre de consécration donc, dont Paul parle ici, ce n'est pas la consécration de mon cœur seulement. C'est la consécration de tout mon être. En fait, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de consécration du cœur seulement. La consécration dans le Nouveau Testament change la manière profonde dont ce que nous faisons avec notre vie, avec notre corps. Il y a un cantique que l'on chante, 285, « Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin maître, que mes mains à ton service, que mes pieds ne faiblissent pas, que mon esprit s'illumine, que ma volonté devienne la servante de la tienne. » C'est une question pour nous, en tant que chrétiens, quand on s'offre au Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce que cela va affecter ma manière dont je vis dans ce corps? Comment cela va-t-il affecter ce que je regarde, ou la manière dont je regarde les choses? Ce que j'écoute, comment j'écoute les choses? Où mes pieds me conduisent? Ce qui entre, ce qui sort de ma bouche? C'est tout mon être. Quand nous chantons « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oui, prends tout, Seigneur. » Est-ce que nous voulons dire vraiment tout? Parce que Paul veut dire tout. C'est pas comme les lingettes de désinfection qu'on utilise, entre autres, pour désinfecter le poste dans les bus, sur les lingettes, sur la boîte, c'est marqué 99,99%. Donc, nettoie 99,99% des bactéries, des virus, etc. Non, c'est 100% dont Paul parle. C'est 100%. Il précise un sacrifice saint, c'est-à-dire entièrement réservé pour le Seigneur. C'est comme si, dans tous les éléments de notre être, de notre vie, de notre corps, il y avait un autocollant qui était marqué, sur lequel c'est marqué « réservé pour le Seigneur ». Bien sûr, nous luttons, et nous luttons tous, avec nos corps, qui sont faibles, qui sont encore dans ce monde de péché. Nous luttons pour vivre cette vie de sainteté, mais c'est le principe qu'il faut saisir. C'est lui qui nous permettra de vivre une vie centrée sur Christ. Seigneur, tout t'appartient, mon corps t'appartient. Tu m'as racheté à grand prix. Tu m'as fait la grâce d'envoyer ton Esprit Saint vivre, faire son temple dans ce corps. Que je devienne le temple du Saint-Esprit. Je suis à toi sans réserve tout mon être, tout mon corps. C'est ce principe qui va gouverner ma vie. D'offrir ce corps, et d'offrir cette vie qui soit afin de vivre d'une manière agréable à Dieu. Et c'est quelque chose pour un chrétien, qu'il soit jeune ou vieux. Quand on doit prendre des décisions, quand on utilise ce corps d'une manière ou d'une autre, quand on doit décider de la carrière que l'on veut faire, quand on s'engage dans des relations, est-ce que ce que je veux faire est agréable à Dieu? Est-ce que cela plaît à Dieu? Est-ce que cela glorifie Dieu? Le sacrifice est un sacrifice total, une réponse totale, avec tout mon être. La réponse est sacrificielle, la réponse est totale. Troisièmement, la réponse est spirituelle. Toujours au verset 1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dans certaines versions, on a un culte spirituel. Et en fait, le terme que Paul utilise ici, est celui à l'origine de notre mot « logique ». Les experts ont quelques difficultés à traduire ce terme parce qu'il y a un contraste entre les sacrifices purement physiques de l'Ancien Testament et le sacrifice spirituel que les croyants sont appelés à offrir. Mais Paul, ce que Paul veut vraiment dire, l'idée que Paul veut transmettre ici, c'est que c'est une logique spirituelle. Paul est en train de nous dire, c'est ici que vous conduit l'évangile. C'est la logique de l'évangile. Si Christ vous a tout donné, alors la logique de l'évangile dans la véritable réponse que l'on donne au Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous le donnions entièrement en retour, sans aucune réserve. C'est simple sur le papier. Mais dans la pratique, est-ce que c'est aussi simple? Il y a tellement de choses que nous ne voulons pas donner. Il y a des personnes, par exemple, qui sont prêtes à se donner au ministère pastoral, mais ils disent, oh, mais uniquement dans cette partie du monde. Parce que c'est là où ils se parlent, là où ils se sentent bien. Et imaginez les apôtres dire une telle chose. On va rester ici en Galilée, on va former un centre pastoral, on pourra vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours. Tant pis pour les autres. Mais qu'en est-il de nous? Il y a trop de choses que nous ne voulons pas donner. Quand on entend la réponse, que la réponse doit être totale, on se sent coupable. Mais on se sent coupable parce que le Seigneur nous appelle à toujours plus. Qu'est-ce qui se passe quand on devient chrétien? Le Seigneur rentre dans nos vies. Il fait sa place dans nos vies. Et il gratte. Il gratte de plus en plus. Et plus on avance, plus on grandit dans la vie chrétienne, plus on réalise qu'on n'est pas un aussi grand chrétien qu'on croyait l'être. On réalise qu'on n'a pas vraiment traité les différents éléments du péché qui est encore en nous et qu'on pensait avoir chassé de notre vie. Et on commence à vivre ce que les croyants ont toujours vécu. Plus on grandit, plus on devient sensible, conscient du fait que le péché est enraciné très profondément en nous, qu'il est tissé dans la structure même de notre être. Le Seigneur nous donne toujours plus, donne-moi toujours plus. Ce qu'il fait pour nous déconstruire en nous montrant notre péché, en nous montrant notre besoin de lui, il l'utilise aussi pour nous construire, pour nous faire grandir, pour nous faire avancer en maturité, devenir équilibré, plus fort. Jim Elliot, un missionnaire assassiné par les Indiens Oka, qu'on appelle aujourd'hui les Waorani en Équateur, a dit ceci. Il n'est pas un imbécile, celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas un imbécile, celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. J'avais compris très jeune qu'il faut la vie entière pour donner toute la vie, toute sa vie à Christ. Et Christ sans arrêt nous dira « Encore plus, donne-moi encore plus, je te veux tout entier pour vivre pour ma gloire. » Et donc la question pour nous, quand Dieu fouille, ou je dirais même fouine dans notre vie, est-ce que je suis en train de lui dire « Seigneur, prends tout, sauf ce petit coin. » Mais rappelons-nous que Dieu ne veut pas faire du mal à ses enfants. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas faire du mal à ceux pour qui il est mort. Notre réponse, c'est oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, je suis à toi. Tout à toi. C'est toi qui as payé la rançon, c'est toi qui as payé le prix, c'est toi qui m'as racheté à grand prix. Je t'appartiens, prends tout. Tout est à toi, utilise-moi comme toi tu le veux. La réponse, donc, doit être sacrificielle, totale et spirituelle. Mais le verset 2 nous donne la quatrième caractéristique. La réponse est transformatrice. Verset 2, et c'est le deuxième impératif. Ne vous conformez pas au siècle présent. Paul ne parle pas ici du fait de ne pas porter des vêtements à la mode ou de ne pas porter de cravate, de faire ce que les autres font. Non, il parle ici de l'esprit du siècle présent, l'esprit du monde qui pense horizontalement au lieu de penser verticalement, qui vit pour ce qui est visible au lieu de vivre pour ce qui est invisible, qui vit pour ce qui est passager, au lieu de vivre pour ce qui est éternel. Paul dit, ne vous conformez pas à cela, soyez des non-conformistes. Mais ne vous arrêtez pas là, parce que celui qui est un non-conformiste pour le simple fait d'être un non-conformiste est un excentrique. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui s'entête à ne pas se conformer à ce monde, un point c'est tout. Le chrétien est quelqu'un qui voit que sa non-conformité avec ce monde est en fait le fruit de la transformation que produit l'Évangile en lui. Ne vous conformez pas au siècle présent, ou une paraphrase, on pourrait dire, ne laissez pas le monde autour de vous vous presser dans son propre moule. Parce que c'est ce que le monde fait à chaque instant, c'est ce qu'il veut faire, nous presser dans son propre moule. Et Paul dit, résistez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Est-ce que vous voyez une différence dans ce que Paul est en train de dire ici? Le verbe se conformer est à la forme active. Le verbe transformer est à la forme passive. Se conformer, c'est quelque chose que nous faisons ou ne faisons pas. Être transformé, c'est quelque chose qui nous est fait. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons. Paul ne dit pas « soyez des transformeurs », mais « soyez transformés ». Mais c'est aussi un impératif. Mais un impératif à la forme passive, « soyez transformés ». Et Paul prend plaisir à comprendre comment l'évangile de Jésus-Christ fonctionne. La transformation de nos vies n'est pas quelque chose qui passe au-dessus de nos têtes. Dieu n'emploie pas sa souveraineté de cette manière-là. Le Dieu souverain, qui seul est capable de nous transformer à l'image de son Fils, comme Paul le dit en Romains 8, 29, nous commande ici d'être transformés. Comment est-ce que cela peut se passer? Comment peut-on faire quelque chose qui, en fait, doit nous être fait? Et en fait, c'est la merveille de l'Évangile. Paul continue à l'expliquer au verset 2. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Par le renouvellement de l'intelligence. Il y a quelque chose à laquelle nous sommes appelés qui implique quelque chose qui nous est fait. Alors, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire pour que quelque chose soit fait en nous? Paul nous dit que cette transformation nous est faite par le renouvellement de l'intelligence. Et cela se fait par les Écritures, par la parole de Dieu. En consacrant notre intelligence à l'Écriture, en se donnant à l'étude de la parole, on découvre que c'est Dieu lui-même qui nous transforme par sa parole. Nous devenons obéissants. C'est lui qui nous transforme en faisant en nous et pour nous ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Et c'est l'accomplissement de la prière du Seigneur Jésus-Christ, de Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est pour ça que la pièce dans laquelle nous nous réunissons le dimanche matin est à la fois un centre d'adoration, mais c'est aussi un hôpital où Dieu fait ses opérations chirurgicales, ses analyses médicales, et il nous donne dans sa parole les remèdes dont nous avons besoin pour que nos vies soient reconstruites par sa grâce. Lorsque nous plaçons nos vies sous la parole de Dieu, lorsque nous la lisons à titre privé, ou alors que lorsque nous la lisons ensemble, lorsque nous plaçons nos vies sous le ministère de cette parole, alors le potier vient, il se met devant la roue, et il œuvre, il façonne, il transforme. La vérité de l'Évangile vient s'implanter dans notre intelligence. On commence à découvrir que cette vérité de l'Évangile nous conduit à vivre pour la gloire de Dieu. Il nous transforme. Ce n'est pas en un claquement de doigts. Ça peut prendre du temps. Parfois ça peut être difficile, ça peut faire mal. Mais Dieu est résolument déterminé à nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Mais notez ceci, le renouvellement de l'intelligence n'est pas le but ultime. C'est très important à souligner. Parfois, on pourra dire de nous, « Ah, mais vous êtes une église d'enseignement, vous êtes déterminé à enseigner la parole de Dieu. » Oui, c'est vrai, l'enseignement a une place importante, mais l'enseignement n'est pas le but ultime. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est la transformation de vie. Et cela se passe lorsque nos affections pour le Seigneur Jésus, pour Dieu le Père, pour le Saint-Esprit, lorsque nos affections sont transformées. Le but ici n'est pas simplement l'information. Le but est la formation de caractère. Le but ultime n'est pas intellectuel, mais affectif. C'est comme c'est ce que Paul veut dire dans la suite du verset 2, et nos traductions sont un peu faibles en parlant simplement de discerner. En fait, c'est beaucoup plus riche que cela. C'est afin que, en testant, en éprouvant, par expérience, vous discerniez, vous ayez un goût, une sensibilité, vous ayez un amour pour la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Pour qui est-ce que c'est bon, agréable et parfait? Les commentateurs sont partagés. La réponse est sans doute bon, agréable et parfait, à la fois pour Dieu et pour le croyant. Mais l'objectif ultime derrière le renouvellement de l'intelligence, c'est la transformation de nos affections pour le Seigneur Jésus-Christ. Et cela va transformer notre comportement, notre vie dans ce monde. Nous sommes dans une période où beaucoup de personnes ont leur intelligence remplie d'informations, mais leur intelligence est très éloignée de leurs émotions, de leurs affections. N'oublions jamais que le but ultime, nous dit Paul, concerne notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et comme Paul va le souligner dans la suite de cette lettre, cela concerne aussi nos relations avec les uns et les autres. Jonathan Edwards, un pasteur et génie intellectuel du XVIIIe siècle, écrit ceci, « Lorsque j'enseigne la parole de Dieu, mon but est d'élever aussi haut que possible vers le Seigneur les affections de mon peuple. » Le Seigneur Jésus ne cherche pas des personnes simplement remplies avec un maximum d'informations à ce sujet. Non, il est l'époux de l'Église. Il aime son Église, il aime son peuple, il aime son épouse. Il veut que son épouse, son Église, nous l'aimions en retour. En fait, c'est comme si, après les 11 premiers chapitres de cette lettre remplie d'indicatifs qui nous ont montré l'amour et la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est comme si Paul, après ces 11 chapitres, nous pose la question, est-ce que vous aimez vraiment le Seigneur Jésus-Christ? Comment est-ce qu'on montre cet amour? Comment est-ce qu'on sait que l'on aime le Seigneur Jésus-Christ? Rappelez-vous les disciples sur la route d'Emmaüs. Ils n'ont pas dit, c'était un superbe enseignement biblique et théologique que nous a donné cet homme. C'était effectivement, sans doute, le meilleur enseignement qu'ils ont jamais entendu. Mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? En chemin, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, Luc 24, 32. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand nous entendions les Écritures? Jésus a prié le Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Notre prière, c'est que Dieu nous donne des cœurs qui brûlent au-dedans de nous, pour le Seigneur Jésus-Christ, pour son œuvre parfaite, que nos affections pour lui soient transformées, afin que notre réponse à son amour, que notre réponse à cette grâce que Dieu nous a manifestée en Christ, soit une réponse sacrificielle, totale, spirituelle et transformatrice. Que Dieu nous aide à saisir ces réalités et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.